Il y a des médecins, d'ailleurs, et beaucoup d'experts qui le disent. C'est une mesure extrême, oui, ce couvre-feu, mais qui peut fonctionner pour réduire le nombre de cas. On va en parler tout de suite avec un de ces médecins qui est convaincu de la bonne chose, là, que ce confinement et surtout ce couvre-feu peut effectivement casser cette vague. C'est le docteur Mathieu Simon qui est avec nous. Il est chef de l'unité des soins intensifs de l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec. Bonjour, docteur Simon.
Bonjour, Mme Maréchal.
Donc, pour vous, c'est une mesure qui semble être la plus efficace pour l'instant, là, selon le contexte actuel?
C'est pas la plus efficace, c'est celle à laquelle on était rendu, parce qu'après des appels à la modération de la socialisation, au port du masque, à la distanciation, au lavage des mains, on se retrouvait avec 2 800, 3 000 cas par jour, ce qui est un régime qui n'est pas soutenable pour la population.
Donc vous, quand vous dites c'était peut-être pas la meilleure mesure, mais c'est celle qui était nécessaire dans le contexte, vous y croyez qu'on arrive à casser cette pénible deuxième vague si tout le monde fait son effort, tout le monde respecte ce couvre-feu?
Tout à fait, j'y crois, puis je n'y crois pas par conviction personnelle, j'y crois parce que ça a été montré par la science. Et des situations similaires se sont retrouvées dans des contextes très particuliers, en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en France, et même sur un porte-avions atomique américain, ils ont montré qu'ils sont capables de casser une pandémie dont on a perdu le contrôle avec une mesure s'apparentant au couvre-feu dans une période de 4 à 6 semaines. Donc, s'ils ont été capables de le faire, on est capable de le faire.
Mais ça veut donc dire, si je suis votre raisonnement, Dr Simon, qu'il y avait effectivement beaucoup de rassemblements qui se passaient après 20 heures, si on estime que ça aura un impact à ce point important, le fait qu'on ait réduit les rassemblements et la circulation des gens, finalement, après 7 heures.
Écoutez, depuis l'entrée en vigueur du confinement et du couvre-feu, on voit des photos de centres-villes et d'autoroutes qui sont vides. Moi, je me demande, qu'est-ce que les gens qui y étaient avant le couvre-feu dans les dernières semaines faisaient sur la route? C'est manifestement pas tous des travailleurs essentiels. Alors, il y avait manifestement une certaine désobéissance civile de gens qui allaient socialiser avec des gens, ce qui est tout à fait correct, là, mais pas approprié à la situation pandémique que nous vivons. Puis oui, malheureusement, en imposant des amendes et une surveillance policière, le gouvernement a touché une corde sensible, puis va peut-être enfin faire comprendre aux récalcitrants qu'il y a une obligation de respecter les mesures.
Mais il y a encore du travail à faire, parce que je disais tout à l'heure, selon un sondage, je crois que 70% là, des Québécois sont d'accord avec et le comprennent, ce couvre-feu, mais il y a quand même 30% des gens qui disent « ben, je vois pas vraiment le but, puis à la rigueur, je pourrais être tenté de ne pas le suivre, d'aller dehors ». Qu'est-ce que vous pensez de ce 30% de récalcitrants, comme vous dites?
Bien, c'est la même chose qu'avec n'importe quel récalcitrant dans la société. Il y a peut-être, je ne sais pas quel pourcentage de la population considère qu'on en fait trop pour l'alcool au volant, puis qu'eux autres sont prêts à aller conduire en buvant de l'alcool. Bien, il y a des lois, puis il y a des peines de prison, puis il y a des amendes qui sont prévues pour ça. Vous savez, une société qui serait entièrement dédiée au maintien de la société, non pas seulement aux droits que confère la société à l'individu, donc qui s'intéresse à ses devoirs, n'aurait pas besoin de loi, parce que les gens comprendraient que face à une maladie qui se transmet par contacts sociaux, bien, il faut restreindre les contacts sociaux au maximum, puis sortir de sa routine, puis se dire « OK, je vais faire un sacrifice ». Puis le problème, c'est qu'on fait des sacrifices depuis bientôt un an, et que puisque ces sacrifices-là n'ont pas été respectés par tout le monde et qu'ils n'ont pas été largement répandus dans la population, on est encore obligé, un an plus tard, à dire à des restaurateurs qui ne peuvent pas ouvrir, à des hôteliers qui ne peuvent pas recevoir des gens, et à beaucoup d'autres personnes qui ne peuvent pas reprendre leur vie normale, parce qu'il y a des gens qui disent que ça ne les touche pas et que ce n'est pas leur affaire, la pandémie.
En même temps, je regarde ce qui se passe en France là, en ce moment, où ils ont beaucoup joué au yo-yo là, avec je ferme, je rouvre, couvre-feu. Là, c'était même 20 heures, comme chez nous maintenant. Puis là, ça a été devancé à 18 heures, donc à 6 heures du soir. C'est quand même important. En plus, les Français mangent beaucoup plus tard que les Québécois. Nous, l'hiver, on a tendance à manger tôt. Donc, à la rigueur, 20 heures, on pourrait se dire, c'est pas si mal. Est-ce qu'on n'aurait pas dû, puisque vous êtes un partisan là, de ce couvre-feu pour casser la vague et cette pandémie, est-ce qu'on n'aurait pas dû, Dr Simon, même le mettre à 18 heures?
Écoutez, l'important, je pense que c'est le message que ça envoie, puis que les gens comprennent que c'est pas correct de socialiser autour d'une bouteille puis d'un bon repas, même si tout le monde est rentré à la maison à 20 heures. Et ça serait pas non plus une très bonne idée de dire, ben écoute, plutôt que de prendre une chance de te faire prendre parce que le souper s'est terminé à 10h30, ben couche à la maison puis tu repartiras demain. C'est pas comme l'alcool au volant, encore une fois. Donc, si les gens contournent les règles en organisant des brunchs puis des dîners au lieu des soupers et gardent à coucher leurs invités, ben on n'a rien compris puis il n'y a pas une loi qui peut casser ça. Pour vous donner une idée, notre gouvernement, on vit dans un pays de liberté, puis on a fait ces dernières années d'énormes progrès sur l'affirmation individuelle, puis c'est très bien. Puis c'est des choses qui sont fascinantes, puis c'est une société remarquable, le Québec. Mais quand on est face à une pandémie, la liberté individuelle, malheureusement, devrait prendre le second plan pour qu'on puisse la regagner le plus vite possible. Pour vous donner une idée, Isabelle, la semaine dernière, il y a eu une éclosion de COVID-19 dans une petite ville chinoise dont personne n'a jamais entendu parler, qui est à 400 kilomètres de Pékin et qui porte 11 millions de population. Ben, ils ont refermé les trains, les aéroports, les routes et ils ont imposé un couvre-feu strict pour 176 cas en deux jours, sur une population de 11 millions. Je ne suis pas sûr que le Québec aurait été prêt à accepter ça, parce que manifestement, si un gouvernement totalitaire ou presque est très efficace pendant une période de pandémie, ben il faut vivre avec ce gouvernement-là dans les années où on n'a pas de pandémie, puis ça, c'est un peu plus difficile, parlez-en aux citoyens de Corée du Nord.
En même temps, bon, il y a d'autres mesures qui auraient peut-être pu être plus efficaces. Je pense entre autres à la fermeture des écoles. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, prenons l'exemple de la Suisse. En Suisse, on a décidé de fermer les écoles au printemps dernier. Et il semble qu'aujourd'hui, ça reste une des mesures qui a été prouvée comme étant la plus efficace pour réduire la mobilité et donc la transmission de la COVID, même si on sait aujourd'hui que c'est difficile de savoir exactement comment les jeunes... quel est leur rôle, en fait, dans la transmission du virus? On n'est pas trop sûr. Est-ce que ce sont des grands vecteurs de transmission? On sait qu'eux-mêmes ont peu de risques, les enfants, hein, d'avoir des formes graves de la maladie. Mais c'est sûr qu'on regarde ça puis on se dit, est-ce que en même temps, on impose un couvre-feu à 20 heures, mais on rouvre les écoles primaires en même temps. Pas sûr que juste le fait de dire aux jeunes, vous allez porter le masque en classe. En plus, on a décidé que la ventilation, ben, ça allait être correct comme ça, qu'on n'allait pas mettre forcément plus de moyens technologiques. Donc, je me demande si la fermeture des écoles n'aurait pas été aussi une mesure efficace, peut-être même en lien avec, même en conjonction avec un couvre-feu. Là. Si on dit qu'on veut casser la vague, bien, on la casse pour vrai, puis à un moment donné, c'est parce que c'est longtemps. Là.
Écoutez, vous avez raison, c'est peut-être la prochaine étape de refermer les écoles, mais ça vient à un prix qui est immense. Le Québec a des valeurs, puis depuis 50 ans, les gouvernements essaient de préserver deux valeurs principales que sont l'éducation et la santé de la population. Et les choix que le premier ministre a fait au cours des dernières semaines sont dans cette direction-là. L'école est un vecteur de transmission de la maladie, mais si l'enfant reste dans sa bulle familiale avec des parents qui sont jeunes et en santé, il n'y a pas de danger. Si on invite à souper grand-père, grand-mère, alors que les enfants vont à l'école et se passent le virus, ben ils vont le passer à grand-père et grand-mère, qui eux autres vont devenir mes patients aux soins intensifs ou à l'étage. Donc, tout est une question de raison. C'est-à-dire que préserver l'éducation pour permettre aux enfants d'être socialisés et d'être éduqués, c'est une valeur qui est forte. Et après ça, il faut faire comprendre aux parents que c'est pas parce que l'école fonctionne que c'est business as usual par ailleurs et qu'on peut faire n'importe quelle autre forme de rassemblement. Mmh. C'est ça le problème du message, c'est que, vous savez, les cas ont commencé à monter cet automne quand on a permis l'Halloween. L'Halloween, comme il était prescrit de le passer, n'est pas tellement dangereux à 2 mètres de distance avec des bonbons qui sont lavés, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont suivi ces recommandations-là, puis probablement qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui se sont dit, ben ma foi, si l'Halloween est permis, ben moi, je vais faire d'autres choses.
Exactement. Oui, tout à fait. Je pense que vous avez raison là-dessus. On pourrait redébattre du fait que c'était peut-être pas la meilleure des idées de permettre l'Halloween. Parce que vous dites, le prix est immense, Dr Simon, puis vous avez tellement raison, mais le prix va être tellement immense à cause de la durée de l'événement. L'événement pandémie n'est plus un événement, là. Ça devient une façon de vivre maintenant. Ça va faire un an. Les Chinois le disent même que ça fait déjà un an officiellement. Pour nous, ce confinement là a commencé en mars. C'est demain, le mois de mars, là. Ça va faire un an bientôt qu'on est pris avec ça. C'est dans la durée, je trouve, que ça va être extrêmement coûteux. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est pas mieux de casser ça pour vrai quand on dit casser, là? Mais bon, on va voir ce que nos auditeurs en pensent. Merci beaucoup, en tout cas. Puis je vous garde encore quelques minutes parce que je pense qu'il faut poursuivre là-dessus. C'est important aussi de savoir pourquoi on fait les choses. On a beaucoup dit au cours des derniers mois de l'importance, on l'a rappelé, d'expliquer aux citoyens. Je pense que le citoyen, là, tout le monde, on n'est pas fou, là. Puis on est d'accord pour suivre quelque chose quand on le comprend. Moi, j'ai juste besoin de me faire un petit peu plus expliquer le pourquoi. Puis là, le docteur Simon vient de nous le dire. Lui, il trouve que c'est une bonne mesure. Puis c'est vrai qu'elle est documentée, cette mesure-là, dans beaucoup de pays, d'ailleurs, qui ont imposé un couvre-feu, une mesure assez extrême. Mais il y a des résultats dans les deux semaines qui viennent. En même temps, il ne faut pas que tout le monde se mette à dire, ben là, moi, je vais m'acheter un chien puis je vais aller le promener ou se promener avec une laisse invisible ou faire croire à la police que tu as perdu ton chien. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Ce sont les numéros pour me joindre et me dire comment vous voyez la chose. Est-ce que vous avez l'intention de le respecter et surtout, est-ce que vous comprenez le but derrière cet exercice d'imposition du couvre-feu au Québec? À tout de suite, tout le monde. Alors, on est de retour. On parle ce matin, en première heure, de ce couvre-feu imposé. 70 % des Québécois sont donc favorables à cette mesure assez extrême qu'on n'a pas connue jusqu'à maintenant et qui nous chambranle, qui nous perturbe beaucoup, qui trouble, bien sûr, notre quotidien, même si le quotidien il est pas mal troublé depuis plusieurs mois. Hein. On est tous d'accord. En même temps, êtes-vous d'accord avec ce couvre-feu et surtout, qu'est-ce que vous en comprenez? Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Êtes-vous d'accord avec ça, vous?
Ben oui, entièrement. Puis même, moi, j'aurais aimé que ça soit plus drastique. T'sais, ça fait un an qu'on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Mm-hmm. Moi, j'aurais tout fermé pendant un mois. Les épiceries, juste de la livraison. Les pharmacies, juste de la livraison. Les stations-service, juste pour les services essentiels. J'aurais été vraiment plus drastique. Là, tu sais, oui, tout le monde aurait été fermé, tout le monde aurait été dur pour l'économie pendant un mois, mais je pense que peut-être que le problème aurait été réglé, peut-être aussi.
Ouais. Mm-hmm. Merci, Daniel, de votre commentaire.
Juste un dernier point
oui,
aussi.
Allez-y.
Un dernier point. Une chose que j'ai pas entendu parler depuis un an, c'est pour la transmission,
oui.
C'est les stations-service. Quand tu vas gazer, là, tu prends ton gun pour mettre du gaz, là. Il n'y a aucune désinfection, il n'y a rien. Tout le monde touche à ça.
Oui, normalement, c'est vrai. On touche à beaucoup de choses, hein, mais bon, c'est aussi un peu notre responsabilité, je vous avoue, à nous traîner du Purel puis à nous laver les mains souvent, souvent, souvent. Là, je pense qu'il faut le faire quand on rentre, quand on sort d'un magasin, même si c'est une pharmacie, presque surtout si c'est une pharmacie, une station-service, là, quand vous prenez effectivement à la pompe, là, il faut vous désinfecter. Moi, j'en ai partout. J'en ai dans. Ça devient une habitude qu'il faut d'ailleurs garder. C'est loin d'être fini tout ça. Je pense que même dans les années à venir, le masque, la désinfection, le lavage de mains sont des mesures qui vont devoir rester, qui vont devoir faire partie de nos habitudes. Merci beaucoup, Daniel. Vincent, bonjour.
Oui, bonjour. Je suis absolument d'accord avec ce que vous venez de dire. Mm-hmm. Les habitudes ne sont pas vraiment ancrées quand on dit que beaucoup de gens, la majorité respecte les règles. Moi, je ne mettrais pas un bémol là-dessus parce qu'on n'a pas vraiment la preuve. C'est anecdotique. Oui, chaque personne, à chaque fois, se déplace de quelque chose. On voit des gens qui font pas nécessairement attention à ce qu'ils font, comme ne pas se laver les mains en rentrant dans un édifice.
Ouais.
En tout cas, j'ai des exemples patents à chaque jour. Moi, je facteur, donc je rentre dans certaines places, même nous autres, dans certaines succursales, il y a des gens, au début, on portait pas les masques, on n'était pas obligés. Oui, je pense qu'il va vraiment falloir continuer à faire, y aller de bonne foi, puis des efforts, mais je pense que c'est vraiment pas ancré en nous autres, contrairement, mettons, aux pays asiatiques où le masque, ça fait partie de leur routine.
Ouais, c'est devenu ça.
Comme tous les jours.
Ouais, merci Vincent, merci beaucoup. Myriam, bonjour.
Oui, bonjour. Je m'excuse de la manière dont vous m'entendez parce que tout simplement hier j'ai cassé mon téléphone et comme les magasins de réparation de téléphone, c'est pas des services essentiels, on m'a donné un téléphone qui date de la préhistoire. Donc désolée pour le son.
On vous entend très bien, Myriam. On vous entend très très bien.
Merci beaucoup. Alors moi j'avais juste une remarque, c'est que c'est bien beau le couvre-feu. Mais il faut voir ce qui s'est passé hier au parc Jarry et à Gouin où je suis allée me promener. Il n'y avait aucune distanciation pour les jeunes qui faisaient du patin, les adultes, le ski de fond. Alors, ce qu'on nous enlève le soir, eh ben la journée, c'est dommage à dire, mais ça se rattrape dans le sens où les gens, il n'y a pas de distanciation. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. J'étais vraiment peinée de voir ça en me disant, il n'y a aucun journaliste qui est là, c'est bien dommage. Et j'étais l'une des seules à porter le masque, même en me promenant et faisant attention à la distanciation. On m'a même fait des remarques et presque insulté en disant « qu'est-ce qu'elle a, celle-là, en pleine forêt, elle met son masque. Mmh. » Non mais attendez, c'est quoi ça?
Mmh. Merci Myriam. Ouais. Même si dans la forêt, je vous dirais, vous pourriez enlever votre masque et prendre une bonne respiration d'air pur. Évidemment, pas s'il y a attroupement comme ce que vous semblez nous décrire. Merci de votre appel. On a Carole avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour.
Comment vous vivez ça, vous, le couvre-feu? Mais merci. Comment vous vivez ce couvre-feu?
Moi, ça ne dérange pas. Je suis vraiment d'accord avec M. Legault.
Mm-hmm.
Le problème, parce que le monde qui travaille le soir, de nuit,
ouais,
commence à 10 heures le soir, puis il n'y a pas de transport en commun qui se rend là. Puis prendre un taxi, c'est plusieurs personnes qui prennent le taxi, tu peux risquer de pogner le virus.
Mm-hmm.
Mais ma fille, elle ne peut pas aller à travailler parce qu'il n'y a pas aucun moyen de transport. Puis on aurait voulu que M. Legault qui donne une solution pour les parents qui allent la conduire à l'ouvrage.
Ah oui, mais vous êtes dans quel coin?
Longueuil.
Longueuil, vous n'avez pas de moyen de transport.
Ben moi, j'ai une auto, je voudrais aller la reconduire à son travail, mais la police, elle veut pas qu'on y aille la reconduire. Il faut soit qu'elle prenne un autobus en commun ou un taxi.
Oui, c'est mais ça, il y a les transports, il faut quand même le dire aux gens, parce que je voudrais pas que ça envoie des mauvais messages. Les transports en commun là, sont toujours fonctionnels, donc...
Ou qu'elle travaille, il n'y en a pas. Puis même s'il n'arrête,
ouais,
alors qu'elle commence à 10 heures le soir, dans un coin, c'est un des entrepôts, c'est tout fermé le soir.
Ouais.
C'est proche de l'autoroute, c'est plus dangereux pour une jeune adolescente.
Ah oui, non, mais tout à fait. Puis c'est difficile pour elle de se rendre, donc, c'est ça?
Ben c'est ça, là. On a manqué une journée d'ouvrage hier à cause de tout ça.
Mais vous savez qu'il y a des exceptions. Hein. Si, d'ailleurs, le télétravail, merci Carole de votre appel, le télétravail a été recommandé chaleureusement, plusieurs fois par le premier ministre, fortement recommandé. Normalement, ce matin, si vous n'êtes pas un essentiel, si c'est pas nécessaire pour vous d'être au bureau, vous devez télétravailler chez vous. Là. Votre patron doit respecter ça. Puis c'est toujours le gros débat, puis probablement qu'on va en faire un sujet cette semaine, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent là-dessus ce matin aussi. Ça a l'air, ça aussi, d'être compliqué comme mesure, là, de... Je pense qu'il y a moyen là, de télétravailler. Vous irez voir mon post Facebook ce matin. Je vous parlais des corridors du 98.5. Il y a très peu de gens ici. Il y a à peu près personne. On n'a pas recommencé à faire rentrer du monde vraiment. Et je pense que dans la plupart des bureaux du centre-ville, ça reste la mesure. Vous savez, pendant le premier confinement, c'était 25%, pas plus de travailleurs. Ben ça doit encore être ça, puis même moins idéalement. On parle de casser la vague, puis je reviens avec vous, Dr Simon, parce qu'en plus, cet après-midi, à 3h, il y aura conférence de presse du premier ministre avec le Dr Arruda. Il se joint à eux, avec le ministre de la Santé, bien sûr, Christian Dubé, va se joindre la sous-ministre adjointe. Et là, on dit que l'heure est grave dans les soins intensifs du Québec. Il y a, bon, manque de lits. Les patients hospitalisés dans plusieurs régions sont... Ceux de la Montérégie sont envoyés à Sherbrooke, ceux de Laval dans les Laurentides. Bref, on essaie de les amener là où on peut. La grande responsable des hôpitaux, donc la sous-ministre adjointe Lucie Opaterny, va parler cet après-midi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, là-dessus?
Écoutez, ce que le Dr Opaterny va discuter aujourd'hui, c'est une réalité contre laquelle on se bat au ministère et dans les hôpitaux depuis déjà plusieurs mois, c'est-à-dire l'inquiétude que si la population ne souscrit pas largement, puis je suis heureux d'entendre vos auditeurs qui sont favorables à ces mesures-là, Si on ne souscrit pas largement à des restrictions qui nous sont imposées, on va se retrouver dans un vent des choix très difficiles. La première étape de ces choix-là est déjà en cours, c'est-à-dire qu'avec des hôpitaux qui, comme vous l'avez dit, sur l'île de Montréal et dans ses ceintures nord et sud sont assiégés par des patients COVID, ben il y a des chirurgies électives. On s'entend par électif, là, on ne parle pas de remplacer une hanche parce qu'on a un peu d'arthrose. On parle de chirurgie pour le cœur, on parle de chirurgie pour le cancer, on parle de chirurgies qui sont utiles et puis qui sont, sans être urgentes aujourd'hui, sont urgentes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ben, elles ne peuvent pas se réaliser parce qu'il n'y a pas de disponibilité de lits de soins intensifs, par exemple. La prochaine étape qui serait dramatique, c'est d'en venir au point où on déborde tellement les hôpitaux que là, on n'est plus capable même de donner des traitements aux personnes qui se présentent de façon urgente pour en recevoir. Et ça, ça serait un échec sociétaire remarquable pour lequel on est à se préparer en termes de système de santé responsable, mais qui serait d'une tristesse puis d'un échec, qui serait le reflet d'un échec immense.
Mais ça n'a pas déjà commencé, ça, docteur Simon? Parce que non, vous parlez de délestage, dans le fond, délestage immense. Là.
Oui, le délestage est malheureusement notre réalité depuis la première vague. Ça s'est amélioré un peu cet été, puis là, on est replongé un peu dans le délestage un peu moins lourd dans la seconde vague. Mais la seconde vague est tellement, puis vous l'avez dit en début d'émission, est tellement longue qu'elle finit par user et que les gens en finissent pas d'attendre. Je pense encore qu'on est capable au Québec de traiter les personnes qui ont vraiment des urgences, mais ceux qui souffrent présentement, c'est les personnes qui ont des situations stables, qu'on pourrait améliorer par une intervention chirurgicale ou autre, et qui malheureusement, puisqu'ils sont pas urgents, voient leurs conditions se détériorer au point où elles deviennent urgentes. Ça, c'est triste.
Parce que là, c'est la première fois, hein, je pense, que la sous-ministre adjointe, Lucio Paterni, va parler publiquement. Il y en a apparemment certains dans le réseau de la santé qui l'appellent Madame Délestage parce que c'est effectivement la médecin qui, dans l'organigramme du ministère, est la plus haut placée. C'est elle qui a rédigé le plan provincial des priorisations de ce qui doit être réorganisé, là, ce fameux débordement qui a amené au délestage. C'est elle qui a dû gérer ça. Vous évaluez que jusqu'à maintenant, le gouvernement se débrouille comment par rapport à la gestion des soins?
J'ai travaillé sur plusieurs des comités où le docteur O'Paterney a été présent, puis je peux vous garantir que sa principale préoccupation, et c'en est une obsession chez elle, c'est d'offrir tous les soins possibles à tout le monde au Québec. Et dans ce sens-là, le système de santé, parce que vos auditeurs le voient pas, mais plusieurs fois par jour, les principaux acteurs se rencontrent puis essaient de tirer le meilleur profit des cartes qui leur sont données. On a une situation pour laquelle il n'y a pas de mode d'emploi à une pandémie. Et si on ferait face beaucoup mieux à la pandémie si on ne faisait que traiter des COVID dans nos hôpitaux, mais on peut pas faire ça parce qu'il y a d'autres gens qui vont mourir de d'autres choses. Et donc, c'est toujours une conciliation entre les urgences et les patients qui doivent être traités, même s'ils ne sont pas urgents maintenant, mais qui ne veulent pas se voir développer une métastase d'un cancer qui n'aura pas été pris à temps ou autre chose. Puis ça, Mme O'Paterney, c'est une clinicienne qui a pratiqué la médecine longuement et qui comprend très, très bien ces choses-là et qui, je vous le garantis, ne fait aucun compromis sans en avoir un serment au cœur.
Si vous aviez, en terminant, Dr Simon, merci d'ailleurs de prendre le temps de nous parler. Si vous aviez à donner un seul message à nos auditeurs.
Écoutez, le Québec a travaillé ces 20 dernières années à permettre à chacun de vivre la vie qu'il souhaitait faire. On a travaillé très, très fort sur les libertés individuelles de toutes les personnes, de tous les sous-groupes de la société pour qu'on soit le plus inclusif possible. C'est pas parfait, mais ça s'en vient quand même pas mal. Là, la pandémie nous oblige à arrêter de regarder seulement nos droits de citoyens, mais à regarder nos devoirs. Le système d'éducation, le système de santé, le système économique et social est mis à très mal épreuve par la pandémie et on a chacun d'entre nous le pouvoir de la freiner. Mais c'est comme un barrage. Si vous décidez d'être la brique faible dans le barrage et que le barrage lâche à cause de vous, Ça ne demande pas 100 000 briques pour lâcher un barrage. Ça en demande une ou deux qui font pas leur travail et c'est la catastrophe se produit. Bien, c'est exactement ce qui est en train de se produire dans la province. La très grande majorité des Québécois comprennent les mesures. Une très grande majorité les applique. Mais il y en a quelques-uns qui se donnent des libertés personnelles et qui font des lézardes dans le barrage qui nous amèneront peut-être tous à la catastrophe.
C'est une analogie qui devrait nous parler si on est bon dans les barrages au Québec.
Oui, c'est notre spécialité.
Hein? Okay. Merci beaucoup, Dr. Mathieu Simon, chef d'unité des soins intensifs à l'Institut universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On va poursuivre, bien sûr, avec vos commentaires. Je veux savoir ce que vous en pensez de ce couvre-feu. C'est quand même une mesure inusitée extrême, c'est sûr. Il y a beaucoup d'usure, hein, je la lis, votre fatigue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. On va continuer d'en poser d'ailleurs. On pourrait se demander d'ailleurs comment ça se fait que ce matin, à l'émission de mon collègue Paul Arcand, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dit qu'il maintenait la semaine de relâche. On va parler d'école tout à l'heure à 11h05. J'aurai sans doute l'occasion de poser la question aux parents, puis vous me donnerez votre opinion là-dessus. Mais c'est une bonne idée d'avoir encore une semaine de relâche alors qu'on a un couvre-feu à 20h. On pourrait se poser des questions. C'est sûr que le couvre-feu est là jusqu'au 8 février. La semaine de relâche va être après. Mais je veux dire, à un moment donné, il va falloir arrêter de recommencer tout le temps, là. Ça serait le fun que ça finisse à un moment donné.